On m'a demandé de revenir sur la distinction entre l'âme et le cœur. Comme je vous l'ai dit dans l'Écriture, quand il s'agit de l'amour, c'est toujours le cœur qui vient en premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et quelquefois, notamment dans l'Évangile, il est rajouté de tout ton esprit, mais à ce moment-là, en grec, littéralement, c'est de toute ta pensée. C'est pas pneuma, mais c'est un autre terme qui signifie à proprement parler la pensée, et de toutes tes forces. De toutes tes forces, ça peut représenter les forces psychiques. Donc tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toutes tes facultés. Mais le cœur, ce n'est pas une faculté comme l'affectivité, qui est une faculté psychique, comme la volonté, qui est une faculté spirituelle. Le cœur, on pourrait, bon, je vous l'ai dit, prendre comme un lieu qui est aussi en même temps une capacité, au sens d'une capacité d'ouverture et une capacité d'orientation de nous-mêmes. Si on fait la distinction entre le cœur et le pneuma, l'esprit, puisque l'âme est essentiellement pneuma, c'est un esprit, l'âme est un esprit qui anime le corps. Si on fait la distinction entre donc le cœur et l'âme spirituelle, en tant qu'elle est un esprit, ce que l'on peut dire, c'est que notre esprit, qui est créé à l'image de Dieu, qui est esprit lui-même, c'est notre esprit qui s'unit à Dieu, comme je vous l'ai dit, par mode de connaissance. C'est-à-dire, en même temps que nous voyons Dieu, nous faisons, comme dit saint Paul, nous ne sommes qu'un seul esprit avec lui. Nous deviendrons semblables à celui que nous verrons. Au ciel, nous serons divinisés par la vision de Dieu. C'est notre esprit qui sera divinisé. Le cœur, lui, il est en arrière, si je puis dire. Il est au niveau des dispositions. L'esprit ne peut voir Dieu que si le cœur s'ouvre à Dieu. C'est au niveau du cœur que se joue la relation à Dieu, au sens que sans ces dispositions du cœur, qui sont essentiellement la foi, l'espérance et l'amour, l'esprit ne peut pas voir, ne peut pas s'unir à Dieu. Et donc tu aimeras Dieu de tout ton cœur parce que tu commenceras par t'ouvrir à Dieu. Tu commenceras par accueillir son amour, à te laisser toucher par lui. Et ensuite, tu l'aimeras de toute ton âme parce que tu t'uniras à lui avec ton esprit en le connaissant. Donc, comme je vous le disais, l'âme, c'est l'être même, au sens où l'homme est un esprit incarné, et qu'après notre mort, nous serons des âmes séparées, comme on dit, des esprits, un peu semblables aux anges, mais à la différence des anges, nous serons en attente de notre corps ressuscité, et nous garderons en même temps un cœur comme capacité de s'ouvrir à Dieu. Si vous voulez, quelqu'un qui vit au niveau de son âme, c'est-à-dire qui exerce sa volonté, qui exerce son intelligence, et qui n'est pas conscient que la vie de son âme dépend de la vie de son cœur, est quelqu'un qui va à l'impasse, comme j'ai essayé de le montrer. Donc le chemin d'intériorité, c'est le chemin qui nous permet de, je dirais, de ne pas oublier ce qui est à la base de notre vie, la capacité de nous ouvrir à Dieu et de nous offrir aux autres. Donc, comme je le montrerai aussi, le combat dans notre vie se situe d'abord dans notre cœur et non pas au niveau simplement donc de notre volonté, de notre intelligence, c'est-à-dire des facultés spirituelles de notre âme. Il y a un couple avec lequel j'étais à table qui a dit qu'après avoir fait une retraite pendant le temps de fiançailles, ils ont pris un temps de recul parce qu'ils se sont rendus compte que leur amour était très affectif et ils voulaient vérifier qu'il y avait quelque chose de plus profond. Là, c'est un très très bon réflexe. Parce qu'on ne construit pas une vie de couple simplement sur une base psychique. Il faut qu'ils puissent quelque part vérifier qu'il y a une capacité à une communion plus profonde. Est-ce que c'est plus clair comme ça? J'espère, mais je ne peux pas tellement dire plus. Vous voyez à travers les exemples que j'ai donnés de personnes à l'arche, que l'âme peut être handicapée à tout niveau, tant au niveau psychique qu'au niveau des facultés spirituelles, et il reste le cœur. Comme le cœur est la base de tout, la vie du cœur, cette vie de foi, d'espérance et d'amour, suffit pour que la personne ait une vraie vie, en fait. Mais ça ne rejaillit pas au niveau de l'action, puisque les facultés sont trop endommagées pour qu'elles puissent poser des actes libre au sens de conscient, volontaire et mobilisant l'intelligence. Vous voyez, c'est aussi cette vision de l'homme qui fait que nous ne pouvons pas être pour l'euthanasie, par exemple, parce que la tentation de l'euthanasie, c'est la tentation de penser que la personne n'a plus de vie, qu'il vaille la peine d'être vécue. C'est la conception de la personne humaine qui est en jeu, mais à partir du moment où on a le sens de l'intériorité, on a le sens que même dans un état de coma, il y a des choses qui se passent. Et ça, quand on a un peu fréquenter les hôpitaux comme je l'ai fait, ça relève de l'ordre de l'expérience. Que le cœur, il reste là et il réagit. Donc, il y a tout un chemin qui peut se faire, même s'il échappe à l'aide technique médicale. Nous allons essayer de montrer maintenant comment nous pouvons vivre notre vie en étant d'abord, comme on disait au XVIIe siècle, des hommes intérieurs. C'est-à-dire en gardant ce sens du primat du cœur qui, en définitive, nous ramène au primat de la grâce. Parce que notre cœur est essentiellement, comme je l'ai dit, un vase, capacité de s'ouvrir, d'accueillir, un don premier, si tu savais le don de Dieu, un don premier, gratuit, qui s'appelle la grâce. Cette grâce que nous recevons dans nos cœurs, définitive l'Esprit Saint qui en même temps nous fait vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Cette grâce que nous recevons dans notre cœur, c'est elle qui demande à œuvrer en nous et à travers nous. Écoutez saint Paul, parlant de sa vie, de tout ce qu'il a fait. « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce, à mon égard, n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, il veut dire que les autres apôtres. » Et il se reprend, « Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. » Avoir le sens du cœur, c'est avoir le sens de cette vie de la grâce en nous, qui fait ses œuvres en nous et à travers nous, grâce précisément à notre ouverture de cœur. Ma vie présente dans la chair, dit saint Paul, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je la vis dans l'ouverture du cœur à celui qui m'a aimé et qui ne cesse de me donner sa grâce pour que je puisse produire du fruit. Ça signifie aussi que dans notre vie, ce qui est la perfection, c'est pas d'être, je dirais, on recherche pas une perfection d'être. On ne recherche pas à se sculpter soi-même quand on est chrétien. On ne recherche pas un idéal de soi. On ne recherche pas une perfection morale. À la limite même, je dirais, on ne recherche pas la sainteté elle-même. On recherche l'union à Dieu. On recherche une relation vivante. On cherche à rester disponible, ouvert à la grâce et à laisser la grâce faire. C'est très différent de viser une perfection d'être dans laquelle finalement on se regarde soi-même, parce que c'est mon être à moi, et de viser une relation vivante, une communion. On peut être très limité au niveau psychique, au niveau affectif, avoir plein de défauts, je dirais humains, si on a le cœur ouvert. On est bon. Il y a une bonté de fond qui est là. Il y a des gens qui ont plutôt mauvais caractère, mais qui ont le cœur ouvert, et on sent la présence de Dieu en eux, et ça passe. Mais la perfection morale, sans l'ouverture du cœur, pensée aux pharisiens, dans l'Évangile, c'est stérile. Pour les raisons que j'ai dites au départ, c'est-à-dire que nous sommes une terre, nous sommes un vase, nous ne sommes pas faits pour vivre en circuit clos. Parler du cœur, c'est rappeler cette nécessité d'une vie d'ouverture à un autre que moi-même. C'est-à-dire aussi, c'est montrer que nous sommes créés pour dépendre d'un autre. Non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Si vous voulez, dans un parcours comme le nôtre, il y a progressivement la prise de conscience que notre vie, que ce soit une vie de couple, une vie professionnelle, ce n'est pas nous qui devons la mener. Mais il s'agit de laisser la grâce opérer son œuvre en nous et à travers nous. Au fond, la question, c'est de savoir si on accepte de se laisser sauver ou si on se sauve soi-même. Mais cette question du salut, de l'accueil du salut, vous voyez, elle devient concrète à partir du moment où on prend conscience de la réalité du cœur. Parce qu'on comprend conscience de là où se situe le lieu du combat. Combat de la foi, combat de l'espérance, combat de la confiance, combat de l'humilité, combat de la dépendance à Dieu. Thank you.
rappelle d'une petite expérience, parce que après mes études d'infirmière, je suis partie en Inde travailler avec les sœurs de Mère Teresa, et je suis arrivée avec toute ma formation de jeune diplômée, bien sûr de mes compétences, etc. Et puis quand je suis arrivée au Mouroir, à Calcutta, et bien une petite sœur m'a confié un monsieur qui avait été ramassé dans la rue et qui était très brûlé. Et moi, je savais que les brûlés, on les soignait dans un milieu très stérile, etc. Et puis, elle m'a donné, cette petite sœur, des compresses non stériles et de l'eau pour le nettoyer chaque jour. Et là, j'ai vraiment senti combien j'étais, que je ne pouvais que lâcher prise, abandonner toutes mes compétences, toutes mes capacités, et laisser vraiment le Seigneur agir à travers toute ma pauvreté. Et alors, jour après jour, j'ai nettoyé cette peau, enlevé cette saleté. Et puis un jour, je me suis repartie et il était guéri. J'ai vraiment découvert combien cette disposition intérieure, en fait, eh bien, c'était pas un abandon psychologique, c'était pas lâcher. On était appelé à faire tout notre petit possible, tout ce qu'on pouvait faire, mais après, il fallait laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir.
Moi, je pense souvent à l'évangile du salaire qui est le même pour celui qui travaille à la première heure. Ça me faisait râler tout le temps en disant c'est dégoûtant. Et jusqu'au jour où j'ai compris que le salaire, c'était le salut. Et je me suis dit, évidemment qu'il n'y a pas mérité, quoi. C'est pas bien grave qu'on soit la première heure. Mais je trouve que c'est. Enfin, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre.
Le témoignage de Florence, on sent qu'il y a un moment où elle a accepté son impuissance humaine, elle est rentrée dans une attitude d'humilité et de confiance. Et à partir de là, il y a des choses qui se sont faites. Dieu a passé. L'humilité et la confiance, c'est les dispositions du cœur. Je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Ce n'est pas notre esprit qui est humble, c'est notre cœur. C'est par l'humilité que je m'ouvre à la grâce. Dieu donne sa grâce aux humbles, comme dit l'Écriture. Et donc, en fait, dans notre vie, et on peut dire dans toute notre vie, puisque on est appelé à tout vivre avec le cœur, dans toutes nos activités, si nous étions sages, si nous avions la sagesse de l'Évangile, eh bien, nous serions d'abord attentifs à ce travail d'accueil, parce que c'est un vrai travail, en réalité, que de se disposer à la grâce. Un travail qu'on apprend avec la vie, au fur et à mesure qu'on devient attentif à cette réalité-là. Si vous lisez les grands traités des mystiques, comme Saint Jean de la Croix, quand il écrit La montée du Mont Carmel, comme sous-titre, c'est « Comment se disposer à entrer promptement dans l'union ?» Comment se disposer. Vous lisez Saint Ignace de Loyola, les exercices spirituels, vous retrouvez le même terme, se disposer. La terre, elle se dispose. On la laboure pour qu'elle soit bien disposée. On la défriche pour qu'elle soit bien disponible. Et ce travail de se rendre disponible à la grâce est en réalité bien plus difficile. Plus compliqué et plus difficile, une chose peut-être simple et difficile, à la fois plus simple et plus difficile que quand on cherche à faire les choses par nous-mêmes. Précisément parce que c'est là que se joue la vraie conversion. conversion au sens de, d'accepter de se laisser aimer et de dépendre de l'amour dont Dieu nous aime. Renoncer à notre esprit d'indépendance et d'autonomie. Renoncer à notre secret appui sur nous-mêmes. Une personne disait, moi je ne voulais compter que sur moi. Et cette peur de dépendre d'un autre. Cette résistance à nous abandonner totalement. Il faut de la force spirituelle pour s'abandonner vraiment. Ça peut sembler, dans un regard superficiel, quelque chose de niveau, on dit, ben oui, il y a des gens qui se laissent faire par Dieu, mais ils n'assument pas vraiment les choses. Non, ce travail sur notre cœur, encore une fois, est à la fois le plus simple, puisqu'il s'agit essentiellement d'une liberté de consentement, comme on l'a dit ce matin, et en même temps le plus difficile. C'est là qu'on doit se vaincre soi-même, vraiment. Et donc, on peut comprendre que beaucoup de personnes, négligent ce travail en même temps. Ils passent à côté de ce qui est le vrai combat. Et donc, à ce moment-là, on affronte les difficultés de la vie en faisant finalement abstraction de la grâce. Et en étant dans ce que j'appelle le volontarisme au sens négatif du terme, c'est-à-dire vivre comme si les choses dépendaient d'abord de nous, alors qu'elles dépendent d'abord de notre union à Dieu. Philippe, tu veux encore donner ton témoignage ? Ça reste toujours au même. Alors, si vous le voulez, pour grandir dans cette sagesse, oui ?
Je n'ai pas préparé, mais... Est-ce que tu me dis, ça fait penser à l'évangélisation. Très souvent, en fait, quand on prie pour évangéliser, et que le Seigneur répond, c'est sûrement ça. Parce qu'en fait, on n'a pas... on s'aperçoit que les occasions se présentent, c'est ça que je veux dire. Donc, quand les occasions se présentent, c'est probablement qu'on est dans cette situation de dépendance où le Seigneur pourvoit, en fait. On ne fait pas la force du poignet. Vous avez sûrement déjà vécu cette expérience de demander au Seigneur d'évangéliser aujourd'hui.
Pour aller dans le sens de ce que tu dis, dans une responsabilité au sein de la communauté, on est donc responsable d'un certain nombre de personnes. Et puis la semaine dernière ou la semaine d'avant, ça présente une situation compliquée qui met en cause des frères ou en avance sur des œufs parce qu'il faut tenir compte de tout le monde, blesser personne, etc. Et on règle une situation et on prend contact avec une des personnes concernées qui vous propose la chose que vous auriez eu envie de lui dire. Voilà. Si on était vraiment, je ne sais pas comment dire, mais en étant dans le volontarisme,
On avait prié, mais on n'y croyait pas.
Voilà, oui, c'est ça le nœud de la réponse.
Je repars des images. Le royaume de Dieu, tout ce que Jésus nous dit du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est au-dedans de nous. C'est cette vie d'union à Dieu qui est dans le cœur. Le royaume de Dieu est cette vie de foi, d'espérance et d'amour qui est une vie d'union et qui donc se forme dans le cœur. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Cette idée de quelque chose qui est... Le levain s'est caché dans la pâte, s'est enfoui. On ne le voit pas, mais ça a le pouvoir de tout faire lever. Et cette pensée que donc, ce qui est dans l'intime de l'être, la capacité de soulever toute la réalité dans toute sa lourdeur, de choses qui nous semblent humainement, je dirais, impossibles à transformer. Évidemment, ça se fait dans le temps. Benoît XVI a utilisé une expression à Cologne, il a utilisé l'expression d'une chaîne de transformation. Et à partir de cette racine de notre être qui est le cœur, cette racine, à partir du moment où elle est tournée vers le courant du fleuve et qu'elle accueille la grâce qui circule par la racine dans tout l'arbre, va engendrer une chaîne de transformation dans tout l'être, dans toute la vie et même à l'extérieur de nous. Et c'est ça qu'on ne peut pas arriver à imaginer. Donc on aura toujours une tentation de se dire, mais ce qui se passe au fond de mon cœur, c'est bien, mais il faut quand même que j'assure. Non, en réalité, l'essentiel, c'est ce qui se passe au fond de mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à faire le possible, mais l'essentiel se décide là. C'est à nous d'avoir cette sagesse pour le comprendre et le vivre. Écoutez la manière dont Benoît XVI en a parlé à propos de cet acte on ne peut plus intime, qui a été l'acte par lequel Jésus, la veille de sa passion, au moment de l'institution de l'Eucharistie, a anticipé réellement l'offrande de lui-même. Donc cet acte d'offrande, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, cet acte par lequel Jésus a déposé son âme pour notre salut. Donc, au plus intime de son cœur, le oui qu'il a prononcé à son Père, l'acceptation de la croix. Écoutez Benoît XVI. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale, la crucifixion, devient de l'intérieur, au niveau du cœur du Christ, l'acte d'un amour qui se donne totalement. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. Voilà l'image géniale. Il n'y a rien de plus petit que l'atome, enfin il y a l'électron, mais la fission de l'atome qui engendre une énergie incroyable. Eh bien, la fission d'un acte d'amour caché aux yeux de tous, d'un acte de renoncement à nous-mêmes, d'un acte d'abandon à Dieu, d'un acte de foi et d'espérance, vécu vraiment, profondément, comparable à l'explosion nucléaire. Si ce n'est que ça ne se fait pas d'une manière subite, mais c'est une chaîne de transformation. C'est avec le temps qu'on s'aperçoit que tel acte intérieur, tel consentement qu'on a fait d'acceptation de la croix, dans telle circonstance, tel acte qu'on a posé, a de l'intérieur transformé notre vie relationnelle, notre vie professionnelle. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal, peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. Il y a la réciproque, c'est-à-dire Le seul changement réel est à partir d'un changement du cœur. Tous les autres changements restent superficiels, tant que le cœur ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, par exemple, un travail psychologique intéressant pour déblayer le terrain, mais si on ne va pas jusqu'à la conversion du cœur, vous voyez ce que je veux dire, on peut arrondir les angles, mais on ne touchera jamais la racine du mal. Je suis en train de penser par rapport à ma propre vie qu'il y a eu un moment où j'ai senti une explosion du bien qui m'a libéré sur bien des plans quand j'ai pu donner un pardon intime du cœur à quelqu'un de ma famille, que ça faisait des années en réalité que je n'arrivais pas à le donner avec le cœur. Le moment, c'était un moment dès l'instant dans lequel j'ai senti que mon cœur se lâchait la colère, enfin, par amour pour Dieu. J'ai senti en même temps comme une vague de libération que j'ai expérimentée dans les jours qui ont suivi, de transformation dans ma vie affective, dans ma vie relationnelle. Alors c'était un point sur lequel je travaillais, étant accompagné, quelqu'un qui connaissait bien la psychologie humaine depuis des années et des années. Évidemment, si on ne fait pas un chemin d'intériorité, je ne vois pas comment on peut réellement changer la vie. Et ça, il n'y a pas que la religion chrétienne qui le dit, hein, parce que tout homme est appelé à découvrir son cœur, mais le Christ nous donne une raison supplémentaire de croire dans cette réalité du cœur, puisqu'il nous dit que le royaume de Dieu est là, au-dedans de vous, dans cette intériorité. C'est ce royaume de Dieu qui est là, qui a la puissance de tout transformer. C'est pas simplement notre cœur, mais c'est notre cœur rempli par la grâce de Dieu, auquel nous croyons. Vous avez des témoignages d'explosion atomique ?
D'explosion atomique, je ne sais pas, mais je te pose une question peut-être par rapport au pardon. Il y a des pardons qui sont dans la tête et pas dans le cœur. Et donc on croit qu'on a pardonné et souvent le travail psychologique permet de faire la lumière sur le fait qu'on n'a pas fait en profondeur.
Oui, je me souviens d'une personne charismatique quand j'étais encore séminariste qui avait mis le doigt dessus disant il y a un problème dans telle relation. J'ai dit non, moi, il n'y a aucun problème, parce que je voulais aimer la personne, je prenais mon vouloir pour la réalité. En fait, j'avais pas la force de voir la colère intérieure qui était en moi, dans mon cœur. C'est vrai qu'un travail psychologique peut aider, mais il y a des personnes qui, dans leur travail psychologique, passent leur temps à dire faute à papa, faute à maman, mais ils ne voient pas le problème qui est dans leur cœur. Donc, un travail psychologique, oui, mais orienté dans un sens d'une recherche de conversion, au service d'un chemin de conversion. Sinon, si c'est simplement, vous voyez, le fait de se délecter dans des explications qui restent au niveau de la tête. Moi, j'accompagne une personne qui a fait 30 ans de psychanalyse. Je tourne en rond. Tant que je n'accepte pas de descendre au fond de mon cœur, qui est aussi au fond de ma misère, hein, et de mon péché à moi. Comment dire ? Entendre qu'il y a des oreilles. Ça fait combien d'années de psychanalyse, toi ?
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied avec ta psychanalyse. Je ne sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave. Oui, je voulais dire. il y a aussi, il y a beaucoup de... C'est douloureux de regarder en face des ténèbres qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pas... Il y a l'orgueil, il y a aussi la souffrance et la peur. Beaucoup de peur par rapport... quand tu parles de fission atomique, je pense à la fission atomique, à l'extraordinaire explosion qui a dû avoir dans le sépulcre. Et ça a eu lieu justement dans un lieu d'opacité, de noir, de ténèbres. Et c'est dans... Donc on a peur de regarder en face tout ce qui ne va pas bien en nous. Et enfin, moi j'ai peur, hein, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas peur. Mais, et alors que c'est là qu'est la puissance de résurrection. Donc voilà.
Je dirais que quand on a foi en cette réalité cachée qu'est le royaume de Dieu dans notre cœur, on peut beaucoup plus facilement renoncer certains projets de vie. Parce que quelquefois, on reste enfermé dans l'idée de réaliser telle ou telle chose, parce qu'on mesure la réussite de notre vie à l'action concrète. Je prends ici l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au départ, elle voulait être missionnaire, martyr, docteur, et même elle aurait voulu être prêtre. Et elle était enfermée dans un carmel normand. Donc, elle était vraiment, je dirais, comme torturée intérieurement par ses grands désirs de faire de grandes choses pour Dieu. Et c'est quand elle a compris que l'amour lui-même, qui est dans le cœur, comme elle dit, renferme toutes les vocations, c'est-à-dire est capable de tout, qu'elle a pu, pariant jusqu'au bout sur cette réalité-là, accepter les limites de sa condition de carmélite. Si on n'a pas une vision à la fois large et profonde de la vie, comment peut-on accepter les limites au niveau de l'action concrète? On reste frustré de ne pas avoir pu vivre ceci, de ne pas avoir pu faire cela. Alors qu'en réalité, quelles que soient les circonstances de notre vie, rien jamais ne nous empêchera dans notre cœur d'accueillir l'amour divin. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel que ce travail sur soi, sur le cœur, ne dépend que de nous. Je peux me retrouver en prison, je peux me retrouver aveugle, je peux me retrouver enchaîné. Je pense à cet évêque vietnamien, Van Thuan, qui est resté 13 ans dans les camps de Nord-Vietnam, dont 9 ans en cellule absolument seule. Lui qui était un évêque d'une extrême ardeur apostolique, s'est retrouvé réduit à l'impuissance la plus totale. Et il n'est pas devenu fou, parce qu'il a cru en l'amour. Je pense à des personnes qui se retrouvent dans des entreprises mises dans des placards. S'il n'y a pas un chemin d'intériorité qui fait qu'on peut dire, comme saint Paul, aucune créature, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et que la vraie réussite de ma vie, c'est cet amour du Christ dans mon cœur, eh bien, à ce moment-là, si on n'a pas ça, forcément, à un moment, je serais amené à désespérer, en tout cas dans le monde étant tel qu'il est. Parce qu'en réalité, on n'a pas trouvé le vrai trésor. Et donc, on s'attache à des choses qui, en réalité, n'ont pas tant d'importance que ça, puisque tout est relatif à cette réalité cachée. Donc la parole de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu, qui est au-dedans de vous. Et le reste sera donné par surcroît, moyennant cette chaîne de transformation. Là, il faut la prendre très au sérieux. comme une règle de vie qui nous empêchera de sombrer dans une quantité de pièges, parce que nous garderons l'axe sur ce qui fait la vraie beauté et la vraie fécondité d'une vie. Oui, parce que sinon, on chante à la messe « L'amour seul suffit, je crois à l'amour, ça, ça, bien chanté. » Et puis après, c'est la vie concrète. Alors là, soyons sérieux, sauf qui peut. Et ça reste au niveau d'un vague romantisme, bon, mais on n'y croit pas vraiment en réalité au royaume de Dieu. C'est juste simplement que ça fait toujours bien de dire qu'on croit à l'amour, l'amour seul compte et tout ça, mais enfin, cause toujours. Moi, je me débrouille comme je peux, système D, mais sauve-toi toi-même, d'abord. L'Écriture nous invite à autre chose, c'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera », ça c'est la fontaine. Mais c'est « confie-toi dans le Seigneur ». Confie-toi dans le Seigneur, l'homme qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre qui tend ses racines vers le courant. Confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Ses racines, 11, 21.
Oui, alors sur le mot de cause toujours, ça me faisait penser aussi que on peut aussi avoir un peu de mal à voir les signes que le Seigneur met sur son chemin. Moi, j'ai le souvenir personnellement d'un pèlerinage à Cotignac, après un devoir de famille que j'ai fait à Cotignac. Donc, je suis arrivé, j'étais embringué là-dedans, si je puis dire, par un bon frère. Donc, c'était dans un boulot très, très prenant. Je suis arrivé assez crevé. Et donc, avec un passé militaire que je vous ai un peu expliqué. Et en fait, j'ai fait ce pèlerinage. J'étais complètement cassé physiquement, et en plus j'étais au milieu de père de famille qui savait d'où je venais, qui étaient tous plus ou moins certains. Donc j'ai eu une image absolument déplorable parce que j'étais obligé de me laisser quasiment traîner pendant ces deux jours de marche. Bon, enfin, ça a été épouvantable psychologiquement. Et quand je suis arrivé à Cotignac, je me souviens très bien, dans le sanctuaire, je me suis vraiment effondré, c'est-à-dire que j'ai pleuré, etc. Mais je dis ça parce que j'ai mis longtemps à comprendre que le Seigneur avait parlé là. Et que, en fait, bon, voilà, il voulait me sortir de... Ah ben justement, ce que tu dis, voilà, je suis le dimanche à la messe, et puis, voilà, au point de l'émission, on chante tout ce qu'il faut bien, et puis on passe à autre chose. Simplement, ce dont je veux témoigner, c'est de dire, le Seigneur met des signes sur notre chemin, mais si on ne veut pas les entendre, on ne les entendra pas.
Confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Rappelle-toi que c'est Dieu qui agit en tous, qui fait son œuvre en tous. Rappelle-toi que sans Dieu tu ne peux rien, qui porte vraiment du fruit. Et confie-toi à ta besogne, fais ton possible. Voyez, mais quand on commence par « confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne », dans le bon ordre, c'est-à-dire réveille d'abord la foi, l'espérance et l'amour, et ensuite « confie-toi à ta besogne », on fait la besogne dans un autre esprit. L'esprit habituel, c'est « il faut que je fasse les choses, il faut que j'assume, il faut que je gère », comme disait Philippe. Et puis si Dieu peut m'aider un peu, ce serait bien quand même. Toi, le ciel t'aidera. Mais en fait, ce n'est pas le bon ordre, voyez. Il faut arriver à convertir notre manière de voir, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Ce n'est pas moi qui travaille avec Dieu, c'est Dieu qui travaille avec moi. C'est lui qui fait son œuvre, ce n'est pas la mienne. Moi, il me demande de me tenir à ma besogne. Se tenir à sa besogne, c'est quoi ? Ben, c'est s'appliquer à faire ce qui dépend de nous, c'est-à-dire en gros notre devoir d'État. Notre devoir d'État, en restant fidèle aux petites choses qui sont de l'ordre du service qu'on a à rendre. Il y a des devoirs d'État dans la vie conjugale. Par exemple, la vie commune. S'appliquer à la vie commune. Respecter les commandements de Dieu, ça rentre dans ce « tiens-toi à ta besogne ». On fait ce qui est de l'ordre de notre devoir, comme on dit. Mais on sait que tout en ayant fait ce qui est de l'ordre de notre devoir, en fait, on n'a rien fait tant que la grâce n'agit pas. Et donc, on fait les choses sans tension. On n'attend pas que, ayant fait tel effort, nécessairement l'autre change. Parce que ce n'est pas notre effort à nous qui peut le changer, c'est la grâce. Et donc on vit nos efforts dans un esprit d'humilité en serviteur inutile. Quand vous aurez fait tout ce que vous devez faire, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Comme dire un prédicateur connu, inutile mais pas inutilisable. C'est-à-dire la grâce va passer à travers ça. Il y a des femmes qui passent leur temps à vouloir convertir leur mari. Fausse route. Non, qu'elles s'en tiennent à leur devoir d'État, qu'elles suivent les commandements de Dieu, qu'elles fassent confiance que moyennant le fait qu'elles se tiennent à leur besogne, la grâce de Dieu va passer. Bon, je n'ai pas des enfants à charge, mais je fais le catéchisme au CM1. Bon, si je sors de mon devoir d'État et que je me mets à vouloir moi-même les convertir, je fais fausse route. En réalité, c'est pas moi qui peux les éveiller à Dieu. Je peux simplement dire les paroles que je dois dire en tant que prêtre. Je fais ce que je peux et je laisse la grâce de Dieu passer. Sincèrement, dans nos relations avec les autres, si on suivait cette sagesse-là, on serait moins stressé et moins malheureux. C'est ça, lâcher prise. C'est pas arrêter de faire ce qu'on peut faire, mais le faire dans un autre esprit.
Tu peux parler ? Mais ce qui est souvent, c'est une source de joie. Je pensais en t'écoutant à Sainte Bernadette quand la Vierge Marie lui dit « Je te promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment à ne pas vivre avec l'esprit du monde, mais à vivre dans ce regard-là, un grand bonheur. Donc ce n'est pas le devoir d'État où la besogne est transformée. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on peut être dans une véritable joie à faire des choses ordinaires parce qu'on a changé ce regard. On n'est plus dans le même monde, même tout en étant complètement dans le monde.
Mais moi, je suis en train de penser, en t'écoutant, qu'il y a des moments où je suis fatigué physiquement et psychiquement, et je me rends compte que Dieu aime bien que j'accepte mes limites dans la fatigue, et que j'accepte les limites de mon travail, et quand je fais du forcing, la grâce passe pas bien. Parce qu'en fait, l'humilité avec laquelle je travaille est plus importante que le travail lui-même. La confiance sainte, l'abandon avec lequel je fais les choses est plus importante que la chose elle-même. Ça, c'est pour arriver à s'en convaincre, parce que c'est là où on croit à l'amour ou pas. Dispositions du cœur cachées sont plus importantes que l'action concrète. La grâce, elle peut passer à travers des actions toutes petites et imparfaites, mais si elles sont vécues dans un amour qui, lui, est parfait, au fond de notre cœur, c'est gagné. Regardez Jean-Paul II, à la fin de sa vie, dans l'état d'impuissance physique et psychique dans lequel il était, il a amassé plus de travail quand il était le sportif de Dieu. De travail au niveau de la transformation des cœurs, parce qu'énormément de gens ont été touchés par lui, on sait comment. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Quel que soit notre état, quelles que soient les limites que la vie nous impose, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il y a toujours une espérance, celle du royaume de Dieu qui est en nous. Donc un vrai chrétien qui a cette sagesse-là, il n'est pas autorisé à désespérer de lui-même, ni de personne, ni de sa vie. Alors, je vais conclure en indiquant simplement que ce travail sur notre cœur, il peut se vivre au quotidien, c'est-à-dire dans toutes les circonstances de la vie. Je peux avoir une occasion soit de travailler l'humilité, soit de travailler la confiance, soit de travailler l'abandon, travailler l'espérance, la charité, enfin les dispositions du cœur. Et de recourir à la prière, on va en parler en fin d'après-midi. Mais il est vrai aussi que, comme dit l'Écriture, le cœur de l'homme, c'est Jérémie 17, 9, est malade et compliqué. Et donc s'il y a un travail au quotidien sur notre cœur, il y a aussi un travail de fond, un travail de purification qui se fait couche par couche. C'est ça, à proprement parler, un travail de sanctification progressif, où on peut intervenir un certain travail psychologique au sens où on peut déblayer un peu le terrain pour y voir plus clair, mais pour y voir plus clair à condition que ce travail soit fait dans l'écoute de Dieu, parce que le meilleur psychanalyste, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, qui peut nous donner une lumière ultra précise sur nous-mêmes. Tandis que nous, les humains, on est toujours un peu grossiers dans nos jugements, les uns sur les autres. Et donc, je disais qu'il y a un travail qui peut être amené à faire, qui est le travail de guérison du cœur, et pour lequel on a besoin de recourir à des aides, y compris c'est là que le fait de se confesser, évidemment, régulièrement est important, on en reparlera, le fait de la d'avoir des frères et des sœurs avec lesquels on puisse parler. Il y a tout un travail sur soi, je dirais, sur le long terme, qu'on ne peut pas faire seul. Il y a un travail, à proprement parler, de purification et de guérison du cœur, et qui peut se faire alors même que l'on garde de grandes fragilités psychiques. Mais les fragilités psychiques seront assainies si le cœur est assaini. Voilà, alors je développe pas plus que ça. Moi, personnellement, j'ai fait, je pense pouvoir dire, un long travail. Je ne sais pas si j'ai fait un grand, mais en tout cas un long travail sur moi-même, aidé, sans lequel je crois que j'aurais eu du mal à continuer à assumer les tâches que je dois assumer. Mais plus je réfléchis au chemin fait, plus je me dis qu'il en reste encore à faire, évidemment, mais aussi que, vraiment, sur ce terrain-là, nul n'est bon juge sur soi. Et il faut avoir l'humilité de se faire aider. Mais, à vrai dire, cette aide, nous la vivons aussi ici à travers ce parcours, pas simplement à travers l'aide que peut être un enseignement, mais aussi à travers l'aide que sont ces partages entre couples qui fait que, à notre insu, nous nous éclairons les uns les autres et la lumière de Dieu circule, hein, parce que nous faisons un humble travail d'écoute et de partage, d'ouverture de cœur les uns devant les autres. Et ça laisse passer la grâce.